le règne dont il est question, puisqu'il s'agit d'un règne où l'on voit des âmes, d'un règne qui a lieu dans le ciel, qui est le contenu de ce qu'on appelle en théologie l'état intermédiaire. Alors essayons de voir si ça marche, si on peut lire le texte comme ça, s'il y a des difficultés insurmontables, ou bien pas. C'est au fond cela le texte. Alors le texte nous dit, je vis un ange descendant du ciel, qui vit le serpent ancien, le diable. Alors si nous comprenons qu'il réduit son activité, en application de la victoire remportée sur le diable lors de la première venue, je ne pense pas qu'il y ait là de difficultés insurmontables. Nous avons un langage symbolique pour parler de cette réduction d'activité. Un agent céleste est en cause, qui en quelque sorte applique la victoire remportée par Jésus-Christ. Nous avons quelque chose d'un peu parallèle dans le chapitre 12. C'est Michel, avec ses anges, qui est en quelque sorte celui qui fait valoir la victoire du Christ contre le diable et ses anges. Donc là, il n'y a pas de difficulté insurmontable. Je vous rappelle bien sûr que le Nouveau Testament souligne la victoire sur Satan remportée à la croix. Et il y a un verset en particulier qui se rapproche de ce que nous avons ici, c'est celui de Jean 12, 31-32. Au moment de la passion, Jésus dit « Maintenant, le prince de ce monde est jeté dehors. » Tout le langage, donc, peut correspondre particulièrement à cette projection dans l'abîme qui est ici en cause. Bien sûr, chaque fois qu'on parle de Satan et de lieu, on parle un langage inévitablement figuré, inadéquat pour un esprit pur, un archi-esprit comme Satan. La localisation, on ne peut pas se comparer à la localisation des corps, mais disons, pour autant que ce langage soit accessible, il me semble qu'il y a ici assez bonne correspondance. Alors, il le lit pour 1000 ans, et afin qu'il ne séduise plus les païens, ou les nations, jusqu'à ce que soit accompli les 1000 ans. Après cela, il doit être lié, il doit être délié pour un peu de temps. Si on donne au mot lié un sens relatif, réduction d'activité, on peut comprendre aussi la séduction dans un sens relatif, de façon parallèle. Ça signifie qu'il n'est pas la même faculté de séduction des nations, des païens, qu'il avait auparavant. Or, c'est justement un point que souligne le Nouveau Testament quelquefois, que jusqu'au moment de la première venue du Christ, les nations ont été en quelque sorte laissées à la séduction satanique. Dieu a laissé les nations suivre leur propre voie, ce qui signifie que le Satan, le séducteur, pouvait les égarer. Tandis qu'il s'occupait de son peuple élu, mais qu'à partir du moment de la première venue, la nouvelle alliance étant ouverte à tous les hommes, et l'appel retentissant pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appelle, à partir de la nouvelle alliance, ce n'est plus le cas. L'évangélisation du monde commence, et de ce fait-là, Satan ne peut plus séduire les nations, les païens, comme il le faisait. Et cela concerne spécialement les païens ici. Pas les juifs, les israélites, mais les païens. Les païens jusqu'alors étaient le domaine du Satan, qui en quelque sorte avait toujours relativement libre cours, et à partir de la première venue du Christ, ce n'est plus le cas. Ces 1000 ans sont le temps de l'évangélisation du monde. Mais alors, que signifie qu'à la fin de ces 1000 ans, à la fin de cette période, il doit être délié? Bien, je crois que ça signifie que cette restreinte que Dieu impose à Satan pour permettre l'évangélisation du monde, pour que toutes les nations soient touchées par la prédication de l'évangile, elle prendra fin. Et que l'histoire que nous vivons se terminera par un déchaînement d'hostilité à Dieu, conduit par Satan, et que, à ce moment-là, alors nous verrons la difficulté d'évangéliser, quand le Satan n'est pas lié. Nous nous rendrons compte que nous avons vécu dans une situation incroyablement privilégiée. Si Satan avait libre cours, vous n'en faites pas, nous ne réussirions pas à faire nos réunions, à distribuer nos tracts. C'est C'est vraiment parce qu'il y a cette chaîne qui le retient qu'il ne peut pas empêcher que l'évangélisation se poursuive comme elle se poursuit. Et il semble donc que dans le plan de Dieu, il y ait tout à la fin une possibilité pour le mal d'exploser et de bloquer pratiquement l'évangélisation pour un peu de temps. Et ce qui me convainc que nous avons là une bonne interprétation, c'est la comparaison avec un texte parallèle, toujours cette comparaison des textes, car le schéma que nous avons ici, une réduction d'activité, une activité empêchée, une activité qui n'est pas nulle, pour l'activité missionnaire, et puis finalement, un déliment des puissances du mal pour un peu de temps, c'est le schéma que nous avons dans la seconde aux Thessaloniciens, chapitre 2. Exactement le schéma. Paul dit, le mystère d'iniquité agit déjà. Il est à l'œuvre. Comme Satan rôde autour de nous. Mais vous savez ce qu'il retient. Il est empêché. Il ne peut pas se déployer comme il le voudrait. Vous savez ce qu'il retient. C'est la chaîne d'Apocalypse 20 où celui qui le retient, il vole, enfin, vous savez qu'il n'y en a pas d'une part le masculin, l'autre part le neutre, c'est l'ange, peut-être, d'Apocalypse 20. Vous savez qu'il est retenu, ce mystère d'iniquité. Mais il faut que ce qu'il retient soit enlevé du chemin, à la fin. Ce qu'il retient doit être enlevé du chemin, et qu'est-ce que c'est à ce moment-là? Bien, c'est le temps qui est appelé d'apostasie dans les versets qui précèdent, pendant lequel l'homme de péché s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu, etc. C'est ce qui doit arriver avant le jour du Seigneur. Vous avez exactement le même schéma, un empêchement, dans le temps présent, une explosion de mal, et comme ici il est dit qu'un feu les détruira, il est dit dans le Thessaloniciens 2 que le Seigneur Jésus détruira par l'éclat de son avènement. Nous avons vraiment un schéma très semblable, et j'ai trouvé très éloquent pour moi que s'interrogeant sur ce qui le retient, celui qui le retient, Kuhlmann, par exemple, dit que c'est la prédication missionnaire. Sans parler d'Apocalypse 20 du tout. Il dit, en remarquant surtout que Jésus a dit, il fallait que cette bonne nouvelle soit portée à toutes les nations. Voilà ce qui va se produire avant la fin. En se basant surtout sur ce parallèle, Kuhlmann dit, ce qu'il retient dans la pensée de Paul, eh bien, ça doit être l'activité missionnaire, qui doit pouvoir se dérouler avant le retour de Jésus-Christ, et donc avant cette explosion de mal qui la précédera tout juste. Si on adopte cette interprétation, que j'adopte, vous voyez la correspondance avec le « afin qu'il ne s'édifie plus de nation ». Vous avez là une bonne correspondance. Alors je crois que nous avons dans cette première partie d'Apocalypse 20 la possibilité de comprendre qu'il s'agit de ce qui se passe depuis la première venue et non pas de la deuxième. Alors à partir du verset 4, la scène change, c'est la même période, mais la scène change et nous avons la vision du règne des âmes de ceux qui ont été décapités pour le témoignage de Jésus, ceux qui ne se sont pas laisser imposer la dictature religieuse et idéologique des tyrans de la terre. Ils vivent et règnent avec le Christ pendant cette même période des 1000 ans. Je crois que l'on peut comprendre cela de l'état intermédiaire sans difficulté. Nous avons dans l'Apocalypse justement une insistance sur l'état intermédiaire. Chapitre 14, l'apôtre prophète Jean, souligne « Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Leurs œuvres les suivent, ils se reposent de leurs travaux, leurs œuvres les suivent. » C'est un thème qui est vraiment présent dans le livre de l'Apocalypse. Je crois qu'il souligne ici que pendant cette même période, ceux qui ont été décapités, et ils sont sans doute représentatifs de tous les chrétiens, mais c'est cela qui intéresse qui intéresse l'auteur, que ceux qui ont été décapités ont part à la vie et au règne du Seigneur Jésus. Bien que la résurrection des corps n'ait pas encore eu lieu, ils sont déjà dans la plénitude de la vie et il règne avec le Christ. Ils lui servent de prêtre, ils sont déjà dans la fonction cultuelle aussi, dans sa présence. C'est le contenu de l'état intermédiaire. Le reste des morts n'en profite pas. Il ne faut pas croire qu'il y ait une seconde chance après la mort pour ceux qui se trouvent dans le camp opposé. Il n'y a pas de seconde chance, le reste des morts n'a pas cette vie, ne vécu pas jusqu'à la fin de ces 1000 ans. Celle-ci est la résurrection, la première. Là, nous avons une parole extrêmement importante pour toute l'interprétation de ce verset. C'est là-dessus que s'appuie le préliminariste pour dire cela doit se situer donc à la seconde venue, puisque la résurrection se situe à la seconde venue. Et ils disent, si il est question de résurrection première, c'est donc bien qu'il y en a deux, une avant le millénium et une après. Mais est-ce conforme à l'analogie de l'Écriture? Est-ce conforme aux autres passages que nous trouvons? En fait, il est question, dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises, d'une résurrection qui, pour le croyant, est passée, donc qui est première pour lui. Il paraît que M. Abouna, hier, a commenté le livre aux Colossiens, que j'ai appris tout à l'heure, les premiers versets du chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens, et vous savez, ce passage affirme, vous êtes ressuscité avec Christ. C'est un thème important qui revient plusieurs fois, ou s'il y en était bien deux, etc., que le croyant est déjà ressuscité avec Christ. Selon la dualité constitutive de l'homme, il y a deux résurrections, une résurrection intérieure, la résurrection de l'homme intérieur, qui désormais se renouvelle de jour en jour, tandis que son corps, son homme extérieur se détruit, et puis alors il y a la résurrection du corps que nous attendons encore. Nous avons les prémices de l'esprit. La vie nouvelle de résurrection nous a déjà été donnée dans une résurrection spirituelle passée pour nous, et nous attendons encore la rédemption de notre corps. La résurrection corporelle, donc finalement une seconde résurrection, qui interviendra plus tard. Ce qui me convainc que tel est ici le sens, tel est ici la pensée, et telles sont les deux résurrections en cause, c'est le parallélisme avec un autre texte de Jean. Car je viens de citer des textes de Paul, mais chez Jean, l'accent est peut-être encore plus fort sur le fait que la résurrection, c'est déjà maintenant pour celui qui croit en Jésus-Christ. C'est dans ce texte de Jean 5 que j'évoquais déjà tout à l'heure, que nous avons ce schéma, et que la dualité des deux résurrections nous est présentée avec beaucoup de force. C'est le passage général où Jésus affirme que comme le Père donne la vie, le Fils donne la vie à celui qui croit en lui. Celui qui croit en lui est passé de la mort à la vie, ce passage. Et puis alors, versets 25 et 28-29, nous avons deux paroles parallèles, très remarquables. Amen, amen, je vous le dis, que l'heure vient, et c'est maintenant, quand les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront. Et puis, au verset 28-29, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient dans laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et ceux qui ont fait le bien sortiront pour la résurrection de la vie, et ceux qui ont fait le mal pour la résurrection du jugement. Là, nous avons deux phrases tout à fait parallèles, vous connaissez les mêmes mots qui sont employés, mais en même temps, des différences significatives. Jésus distingue entre deux résurrections. L'heure vient et c'est maintenant, et puis l'heure vient. À ne pas confondre. Et il dit, ne vous étonnez pas. Si j'affirme une résurrection maintenant, dans le verset 25, ça ne veut pas dire que je nie la résurrection future. Ne vous étonnez pas. Oui, bien sûr, l'heure vient future. Et alors, la différence est bien marquée. Dans le premier cas, c'est les morts, parce qu'il s'agit d'une résurrection spirituelle. C'est les morts spirituelles. Et dans le deuxième cas, c'est ceux qui sont dans les sépulcres. Et dans le premier cas, c'est une résurrection qui ne concerne qu'une seule catégorie, ceux qui croient au Fils et qui reçoivent la vie, qui entendent la voix, qui la suivent. Et puis, dans le deuxième cas, il y a les deux catégories, parce que c'est la résurrection corporelle qui, elle, est double, où il y a ceux qui ressuscitent pour la vie et les autres qui ressuscitent pour la condamnation. Mais nous avons, dans le parallélisme des deux phrases, en même temps que dans leur distinction, vraiment la notion de deux résurrections. Et devant ce parallélisme, il me semble que le mieux, c'est de comprendre aussi que la première résurrection concerne la résurrection spirituelle, dont parle Jean 5 et dont parle l'apôtre Paul en divers endroits. Et heureux et saint celui qui a part à cette résurrection, parce que la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux, sur lui. La seconde mort, qui est la mort spirituelle définitive, oui, n'a pas de pouvoir sur celui qui est ressuscité spirituellement. Vous avez en quelque sorte un entrecroisement, première mort, deuxième mort, première résurrection, deuxième résurrection. La première résurrection libère de la seconde mort, et la seconde résurrection libère de la première mort. La seconde résurrection est physique, et elle renverse la mort physique. La première résurrection est spirituelle, et elle renverse la seconde mort. Elle fait que la seconde mort n'a pas de pouvoir. Vous voyez l'entrecroisement ici qui est remarquable. La résurrection, la première résurrection, c'est la résurrection qu'on pourrait appeler spirituelle, sur laquelle se branche en quelque sorte l'état intermédiaire. L'état intermédiaire, c'est au fond l'épanouissement de ce qui est mis en nous par la première résurrection. C'est la première résurrection épanouie. Notre corps est déposé en terre, mais notre être intérieur, qui se renouvelle de jour en jour depuis le moment de la résurrection spirituelle, a la vie en plénitude, il n'avait pas encore sur la terre, lorsqu'il entre dans l'état intermédiaire. Alors, quelle est la fonction de ce texte? Quelle est la fonction de ce texte? Donc, pour la suite, en gros, je l'ai expliqué à propos du déliment de Satan. Je crois que cette fonction, qui a d'ailleurs été assez bien vue par Leon Morris dans son commentaire sur l'Apocalypse, dernier des commentaires de la série Tyndale, c'est de nous présenter au fond la coulisse dans l'invisible de ce que nous avons raconté comme thème terrestre dans les chapitres précédents, dans toute la série qui commence au chapitre 13. Nous avons vu se déchaîner la bête et le pauvre prophète sur la terre, et la grande Babylone, etc., et tous les ravages, etc. Et maintenant, avant le jugement, nous sommes en quelque sorte instruit de ce qui se passait dans l'invisible, de ce qui se passe dans l'invisible, pendant que tout cela s'opérait sur terre. Et nous voyons les choses en quelque sorte du point de vue de Dieu, et non plus du point de vue du spectacle qui s'offre aux yeux des hommes. Et c'est comme cela que le texte prend beaucoup de relief. Sur la terre, avec la belle et beau prophète, il semblait que vraiment toutes les forces du mal l'emportent. Mais en réalité, que se passait-il? En réalité, le plan de Dieu s'accomplissait. Là, l'évangélisation du monde se poursuivait. Sauf dans ce dernier moment paroxystique, Satan était en fait lié, incapable d'accomplir ses desseins. Sur la terre, les martyrs, c'est eux surtout que l'on considère, semblaient les perdants. Ils avaient misé sur Jésus-Christ et finalement, on les mettait à mort, etc. Ils tout perdu, ils paraissaient des perdants. Mais quand on voit les choses dans l'invisible, qu'est-ce que l'on perçoit? Ils sont avec Christ en train de régner et de lui servir de prêtre dans une plénitude de vie. Voilà la vraie situation quand on voit l'invisible. Et il est question là de Satan, alors que dans les chapitres précédents, on voit ses organes terrestres de la bête et du faux prophète. Nous avons en quelque sorte un tableau qui nous présente l'envers du décor de tout ce qui nous a été rapporté dans les chapitres précédents. Il en reste un point qui mérite commentaire, et là j'ajoute à ce que j'ai pu lire, j'ai pensé de pouvoir découvrir cela. Pourquoi le symbolisme de 1000? Pourquoi 1000 ans? Parce que l'insistance bien souvent, c'est sur la proximité du retour de Jésus. Je viens bientôt, alors 1000 ans, c'est pas énorme. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté là? 1000 est évidemment un chiffre symbolique d'énormité, 10 au cube. Je crois que c'est de nouveau par la comparaison avec l'évangile de Jean que nous trouvons la signification. C'est ce qu'on appelle en langage technique l'eschatologie réalisée dans l'évangile de Jean. Certains ont résumé en disant « Demain c'est aujourd'hui ». On pourrait dire « La fin c'est aujourd'hui ». Par avant c'est déjà. Et vous savez, il y a une insistance très forte dans l'évangile de Jean sur le fait que le jugement arrive dès maintenant dans la décision que l'on prend en face de Jésus-Christ. La vie éternelle est donnée dès maintenant. C'est beaucoup plus fort que dans les évangiles synoptiques. c'est pas en contradiction, mais c'est un accent beaucoup plus fort. L'accent sur le fait que l'éternité est déjà présente et décidée. Or, le chiffre 1000, à cause de son énormité, peut servir de symbole pour l'impact de l'éternité sur le temps, si vous voulez. Je ne pense pas qu'on puisse le prendre ici comme simplement représentant l'éternité, puisqu'il est question après le million. Mais je pense qu'on peut discerner cette signification. Ce que le texte peut mettre en relief, c'est que c'est déjà acquis, aussi bien la défaite du serpent que le règne de ceux qui sont avec Christ. C'est déjà pour eux, dans l'histoire, tout à fait assuré. L'adversaire est vaincu et eux sont du côté triomphateur. Je crois que c'est cela que le chiffre 1000 veut évoquer, donc il ne veut pas nous indiquer quelle est la longueur de l'ère de l'Église, mais bien sûr ça ne nous choque pas nous puisqu'il y a presque 2000 ans, mais c'est pas la fonction de ce chiffre de nous donner une durée effective, c'est un chiffre symbolique pour souligner qu'à partir de la première venue, c'est déjà la fin qui est opérante dans l'histoire des hommes. Et dans un article de Pierre Prigent qui enseigne à la faculté de Strasbourg actuellement, sur ce texte-là, dans la revue Position luthérienne de janvier 73, les 1000 ans d'Apocalypse 20, je trouve très bien définie l'intention globale du livre de l'Apocalypse, et il l'a défini ainsi, d'annoncer que la fin ne sera que la manifestation glorieuse de ce qui est déjà depuis le Christ. La fin qui vient, acquise, est déjà opérante dans l'histoire des hommes. Il me semble que le symbolisme des mille exprime ce sens-là dans la vision de l'Apocalypse. Il me semble, personnellement, que cette lecture est au moins aussi facile que celle du prémillénarisme dans ce passage et qu'elle correspond à d'autres textes bibliques bien mieux, ce qui me donne, me semble lui donner l'avantage. Alors, il y aurait pas mal d'autres arguments d'ordre théologique, les difficultés rencontrées. Par exemple, quelque chose comme l'argument tiré sur Apocalypse 21. L'argument tiré d'Apocalypse 21. S'il y avait un millénium, ce n'est pas en Apocalypse 20 qui serait décrit, mais en Apocalypse 21, tant la description qui est donnée là ressemble à ce que les millénaristes disent du millénium. Mais ils sont bien obligés de reconnaître que c'est la nouvelle terre qui est en cause en Apocalypse 21, etc. Mais je crois qu'il vaut mieux que je m'arrête maintenant pour vous laisser quand même le temps de poser vos questions et de souffler vos objections. Monsieur Romerovski,
je vais vous demander comment est-ce que vous comprenez deux textes. Le premier, celui de 1 Thessaloniciens 4, 16, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et puis aussi le passage d'Apocalypse 12 où il est dit que Satan a été précipité sur la terre.
Alors j'espère que tout le monde a entendu, mais je réponds brièvement. En ce qui concerne la première aux Thessaloniciens, je pense qu'il s'agit de la décomposition des phases d'un même et unique événement. Que les morts en Christ ressuscitent premièrement dans ce texte par rapport aux vivants qui sont changés, l'apôtre répond à la crainte des Thessaloniciens que leur mort, que les chrétiens qui étaient décédés, perdent le bénéfice du salut, ils ne savaient pas ce qu'il en était pour eux, et il leur dit, nous les vivants, nous ne précéderons pas ceux qui se sont endormis en Christ, ils ressusciteront d'abord. Donc il s'agit de la décomposition des deux phases. Le premièrement se réfère à ces deux phases, la résurrection de ceux qui sont morts en Christ et l'enlèvement et le changement de ceux qui sont enlevés avec eux. Donc c'est ainsi que je comprends le premièrement. Au sein de l'unique événement de la résurrection et de l'enlèvement de l'Église, le premier élément que l'on peut valoir et que l'on peut apparaître, c'est la résurrection des croyants décédés. Alors en ce qui concerne Apocalypse 12, précipité sur la terre, à mon avis, nous avons là une autre façon de décrire dans ce langage spatial toujours inadéquat ce qu'il advient de Satan après la première venue. On peut dire qu'il est dans l'abîme, on peut dire qu'il est sur la terre, ce sont des expressions ultimement équivalentes. Mais nous avons d'autres aspects de la réalité concernant Satan qui sont évoqués à l'aide de ces autres expressions. Nadelle ?
Je ne peux pas la faire en plus, mais je peux considérer qui règne en nous avec Jésus-Christ. Jusqu'à présent, je pensais que les morts ne savent pas ce qui se passe sur la terre, mais si ils règnent avec Jésus-Christ, il faut bien qu'ils sachent ce qui se passe sur la terre.
Oui, alors là, évidemment, discuter vraiment ce point nous entraînerait assez loin dans une autre question que celle du millénium, mais je crois personnellement qu'ils ont un connaissance de ce qui se passe sur la terre, mais uniquement au travers de Jésus-Christ. Ils règnent avec lui et en lui, et donc n'ont pas une connaissance indépendante, de telle sorte que nous ne devons surtout pas essayer d'établir un rapport ou indépendant. C'est au travers du Seigneur Jésus, on voit les choses comme il les voit, il leur donne à voir, puisqu'ils sont en communion consciente avec lui, qu'ils exercent ce règne.
Et puis une deuxième question, que dans le schéma que vous avez donné, pour savoir où se place l'enlèvement d'église.
Alors, l'enlèvement d'église se place pour moi avant le retour de Jésus-Christ. C'est un des éléments de cet événement qui est relativement diversifié, mais qui est quand même unique, qu'on ne peut pas fragmenter en période, en éléments qui seraient séparés par de longues périodes. Ce complexe d'événements qui est la résurrection générale, le retour de Jésus, le jugement, l'établissement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre.
Je ne sais pas ce qui se passerait, parce qu'à la fin, d'ailleurs, il y a une grande guerre, ce qui se passerait avant ça
Non, alors, comme les préliminaristes classiques, n'est-ce pas, je crois, tous ceux qui sont en toute cette ligne, croient que les croyants passent par la grande tribulation. Tout cela, il n'y a que les dispensationalistes qui pensent qu'ils sont tombés avant. Oui, oui. Oui, enfin, nous nous comprenons. Quand il assiège la forteresse des saints, oui. Oui, alors pour moi, c'est justement les chrétiens qui sont en cause. Cette forteresse des saints correspond aux chrétiens, et à mon avis, c'est une des difficultés de la thèse prémillénariste, que l'interprétation de ce verset, si c'est à la fin du millénium, les chrétiens sont dans un corps de résurrection. Sont donc semblables en faculté à Christ ressuscité, passant à travers les portes, etc. Comment Satan peut-il regrouper des hommes qui ont un corps qui n'est pas un corps de résurrection, qui est un corps semblable à celui que nous avons aujourd'hui, pour les assiéger dans une forteresse? Ça me paraît assez difficile. D'ailleurs, c'est un mélange un peu difficile à concevoir, aussi de celui de ses corps ressuscités et de ses corps non ressuscités.
Monsieur, que se passe-t-il entre l'enlèvement de l'Église et le retour du Christ? On est bien avec des hommes sans chrétiens?
C'est le même événement. Il s'agit de phases donc, que l'on peut distinguer, mais d'un même événement global. Je crois que nous sommes enlevés à sa rencontre et nous redescendons avec lui.
C'est le même ponctuel.
Oui, oui, c'est le même jour, si vous voulez. C'est là le jour du Seigneur. Monsieur Douillet,
Dans l'étude que vous avez fait, vous avez parlé de l'homme, lui-même, le prophète de Dieu, et vous avez parlé aussi de la deuxième venue, d'une destruction, vous voyez la destruction de la terre, c'est la deuxième venue. Ce que je voudrais savoir, c'est comment vous interprétez le texte de Romains 8, 21, où la création soupire après une délivrance, et où, me semble-t-il, et vous avez parlé aussi de la deuxième venue, d'une destruction, vous voyez la destruction de la terre, c'est la deuxième venue. Ce que je voudrais savoir, c'est comment vous interprétez le texte de Romains 8, 21, où la création soupire après une délivrance, et où, me semble-t-il, on pourrait voir une délivrance réelle accordée et une restauration, non pas une destruction ou une recréation, mais une restauration. Et comment vous le voyez la chose?
Oui, alors là, je peux pas aisément répondre, parce que je considère qu'il faut dire les deux à la fois. Et si j'ai employé tout à l'heure, parce que ce n'était pas exactement mon sujet, vous voyez l'expression de destruction très, très rapidement, je ne veux pas du tout enseigner que la nouvelle création soit sans relation avec l'ancienne. Il faut parler de destruction, parce que 2 Pierre 3 le fait, mais 2 Pierre 3 lui-même nous montre qu'il ne s'agit pas de l'entendre d'une pure et simple disparition, car 2 Pierre 3 prend l'analogie du déluge, en disant que la terre d'alors a été détruite, le monde d'alors a été détruit et été remplacé, mais ça a été le même monde en même temps qui a été purgé et balayé par le déluge, Mais en un sens, c'était le même monde. Je crois qu'il faut dire pour le monde exactement ce que l'Écriture le dit pour le corps, pour notre corps. Au fond, notre corps, c'est notre participation au monde. Notre corps est semé, corrompu, etc. Il ressuscite incorruptible. C'est lui et c'est pas lui. On peut dire que c'est un corps nouveau que nous recevons. On peut dire aussi que c'est ce corps que nous avons libéré de la servitude de la corruption. Les deux façons de parler sont légitimes. Et bien, il en est de même pour le monde. Pour moi, la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, c'est la même chose que la libération de Romains 8, 20 dont vous parlez. Exactement la même chose.
Il me semble soutenir la texte par la destruction par le feu de la terre.
C'est 2 Pierre 3, là. Qui compare ce qui vient au déluge par l'eau en disant c'est plus par l'eau, c'est par le feu. Les éléments embrasés se dissoudront, etc. Vous voyez? Mais je crois que ça signifie un bain de feu purificateur, semblable à la mort du corps pour notre corps. Le vieux monde mourra, mais ressuscitera. C'est lui qui ressuscitera comme nouvelle création. Ce qui signifie qu'il sera affranchi de la servitude de la corruption. Si, mais la nouvelle terre, c'est cette terre ressuscitée. Oui. Alors, en ce qui concerne l'humanité qui l'habite, bien sûr, c'est pourquoi on renoue un corps? Pourquoi on renoue un corps spirituel?
C'est le royaume des cieux.
Oui, oui. Le corps spirituel, c'est ce qui correspond à la nouvelle terre, c'est notre participation à la nouvelle terre. Nous n'aurions pas de corps si nous n'étions que dans le ciel. Mais justement, ce sont des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera que nous attendons. Entre parenthèses, c'est aussi un argument que nous avons donné, c'est dans 2 Pierre 3, ben, l'objet de l'attente prochaine de tous les chrétiens, c'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est pas 1000 ans venant d'avant.
Et la pensée de l'eau habitera les planos, et donc certaines
mêmes terres qu'on verra les planos. Alors, dans la mesure où ce langage serait apprendre littéralement, oui, moi je dis pourquoi pas. Je ne l'exclus pas, je ne l'affirme pas non plus, parce que le langage me paraît à. Ah, donc, l'un des degrés figuratifs, mais enfin, je ne l'exclus pas. Si Dieu s'est plus à créer cette diversité animale sur la première, on peut bien, en recréant, faire surgir quelque chose qui lui ressemble aussi. C'est bon.
Vous avez dit que le Nouveau Testament souligne que Dieu a laissé les nations suivre leur propre voie.
Oui, acte 14. Je ne l'ai pas donné, hein, c'est possible, mais c'est acte 14, verset, c'est le grand discours, verset 16.
Et dans Romains, quand même, Paul dit que, dans Romains 2, que les païens ont une loi. Au fond, on avait dit dans le de témoignage, alors que leur conscience n'a pas rendu témoignage, qu'ils agissent selon cette loi. Et qui peuvent même agir aussi bien qu'un juif, qui vous savez que ça veut la loi. Alors, dans quelle mesure il est abandonné
précisément, une mesure relative, comme j'ai exposé. Quelle que soit l'hypothèse que l'on forme à propos du liman, on est obligé de dire que ce liman ne signifie pas qu'avant, Satan faisait absolument tout ce qu'il voulait, parce que de toute façon, Dieu l'a limité. Cela est attesté. De manière suffisamment claire. Donc, de toute façon, être délié, ne pas être lié pour Satan, ne signifie pas être totalement indépendant et libre de faire tout ce qu'il veut. Et c'est pour ça que je dis, l'image du liman peut impliquer une réduction relative. Mais en ce qui concerne Romains 2, n'est-ce pas, il ne s'agit pas tout du même problème, il s'agit du fait que les païens sont inexcusables. Comme les juifs, parce qu'ils ont la loi de Dieu inscrite en leur cœur, qui se manifeste en particulier par les débats intérieurs de la conscience. Alors ce n'est pas du tout exclusif du fait qu'ils ont été livrés à Satan qui les a égarés dans toutes sortes d'idolâtries, alors que les juifs ont été protégés à cet égard par tous les appels de Dieu. Justement, Dieu les a livrés. C'est-à-dire, ils ont été sous l'emprise de la séduction satanique d'une manière beaucoup plus directe que les juifs, et cela a changé à partir du moment de la première venue.
Je n'ai pas très bien compris. Vous dites que Satan n'est pas tout à fait lié. Alors, c'est bien précisé dans 20 versets 3, la traduction de jeta dans la boue, ferma et s'est lancé au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus. Donc, il y a bien, c'est bien net, afin qu'il ne séduise plus les nations.
Je vois que votre difficulté, c'est d'admettre que ces termes-là puissent avoir un sens relatif. Mais je crois que vous êtes obligé de l'admettre par la comparaison des autres textes. Et aussi par le fait, comme je le viens de l'exposer, que même, au jugement des prémillonnaristes, même quand il était délié, ça ne signifiait pas qu'il était libre de faire ce qu'il voulait, totalement. Donc ça a un sens nécessairement relatif, une réduction d'activité. Le texte a l'air, si vous voulez, pour plus massivement les choses. Le texte a l'air de nous présenter du tout ou rien. Et c'est comme ça que vous le lisez, vous avez pris l'habitude de le lire, et vous dites, je dis, il a l'air de dire du tout ou rien. Mais quand on réfléchit, qu'on voit les textes parallèles, on comprend qu'il n'impose pas de comprendre cela en tout ou rien. D'une part parce que ce n'était pas rien, avant, ça les autres textes sont obligés de... Nous sommes obligés de le reprendre dans les autres textes, comme dans le livre de Job, par exemple. Et d'autre part, un parallèle comme Marc 3 montre que l'image du liman peut très bien s'utiliser pour une réduction relative seulement. Et comme celle de la séduction, comme la parole sur la séduction est branchée sur celle du liman, on peut la comprendre de façon parallèle. D'ailleurs, je signale qu'il y a encore un autre passage dans l'épître de Jude, où il est dit que les anges qui n'ont pas gardé leur propre rang sont enchaînés dans le temps présent. Vous avez ce passage-là que l'on peut aussi invoquer. Et dans Colossiens 2, il est dit que les puissances et les dominations sont dans le triomphe de Christ. Il a triomphé d'elle par la croix. Or, le mot triomphe n'évoque pas seulement ce qu'il évoque pour nous, une grande victoire, il évoque aussi le cortège du triomphateur romain qui en est enchaîné derrière lui ceux qu'il a vaincus. Donc ça évoque aussi l'image de chaîne. Alors je crois que nous avons ces parallèles bibliques pour nous montrer que l'idée d'un enchaînement de Satan dans le temps présent n'est pas du tout scandaleuse. Et qu'elle, si on la comprend dans un sens relatif, qu'on se mette d'accord avec d'autres textes, elle est tout à fait acceptable. En ce qui concerne Jude, je vais chercher la référence exacte. Jude 6. L'autre, c'était Colossiens 2. Triomphe de Sas. C'est triomphe d'elle à la croix. Mademoiselle. Oui. Et alors là, il y a déjà eu une question tout à l'heure à ce propos. Il faut distinguer entre le liman comme un effet de la victoire remportée sur Satan et de l'ouverture de la Nouvelle Alliance. Cette victoire et l'ouverture elle-même. Du fait que Satan a été vaincu, que la Nouvelle Alliance a été ouverte, Dieu réduit son activité. Il impose une restreinte particulièrement marquée pendant le temps présent. Mais il cessera de le faire pour un peu de temps, à la fin de notre ère. Et cela ne signifie pas que la victoire soit remise en cause ou que l'ouverture de la Nouvelle Alliance soit remise en cause. C'est parce qu'il s'agit d'une mesure qui dépend de la victoire, mais qui reste quand même distincte d'elle. Vous saisissez la distinction, là? Parce qu'il ne semble pas que ce soit si difficile. Comment essayer de le faire apparaître plus clairement? Enfin, le fait que Satan soit lié, c'est une mesure de réduction de son activité que Dieu lui impose. En vertu de quoi lui impose-t-il? en vertu de la victoire remportée sur lui. Et s'il ne séduit plus les nations, c'est que Dieu a ouvert l'alliance maintenant à tous les peuples, et que donc il ne laisse plus comme une espèce de chasse gardée à Satan l'ensemble des nations païennes. Mais cette mesure que Dieu prend, il peut, pendant un peu de temps, l'abroger, ça ne remet pas en cause la victoire. Satan reste le vaincu, l'alliance reste ouverte à tous. Seulement, nous sommes au terme de la dispensation que Dieu a prévue pour que la masse des païens entre dans son église, entre dans la nouvelle alliance. Le nombre des élus est entré, pratiquement complet, et alors Dieu laisse Satan s'exprimer une dernière fois dans toute son hostilité avant de couper net et de lui infliger son châtiment définitif. Voilà le schéma. C'est bien.
Je m'en souviens pas,
les textes que vous prenez pour parler de ces états intermédiaires.
Oui.
Je ne sais pas,
sur quoi vous basez, ce que vous en dites exactement.
Alors ça, c'est de nouveau quand même un peu un chapitre. Et je pense qu'il y a pas mal de passages du Nouveau Testament qui permettent d'affirmer l'état intermédiaire. Une vie consciente avec Christ, et de l'âme sans le corps, entre la mort physique et la résurrection corporelle. Entre, si vous voulez, la première mort et la seconde résurrection. Alors, parmi les textes auxquels je pense maintenant d'emblée, il y a 2 Corinthiens 5 et Philippiens 1. Je crois que ce sont deux passages qui vraiment ont beaucoup de force. Il y a la parole de l'Épître aux Hébreux sur les esprits des justes parvenus à la perfection, en Hébreux 12, il me semble aussi pouvoir être invoqué. Personnellement, mais là c'est contestable, je comprends les esprits en prison de l'état intermédiaire, mais cette fois alors, non pas du côté bienheureux, mais du côté de la condamnation, qui sont d'ailleurs aussi mentionnés dans 2 Pierre 2. Oui, c'est garder les rebelles, les injustes, en prison en attendant le jour de leur jugement. Puis alors, il y aurait la parole de Jésus au brigand sur la croix. Ça me paraît de voir l'interprétation la meilleure pour cette parole. Rattachez-le aujourd'hui à « je te le dis », ça me paraît vraiment assez faible, parce que c'est une telle évidence que Jésus parlait le jour où il parlait, que le « aujourd'hui » doit se rapporter à « tu seras avec moi dans le paradis ». Il y a ces textes-là, on peut aussi citer, bien que la chose soit assez discutée, la parabole de Luc, c'est on relit très bien, et la parabole de Lazare. Voilà un certain nombre de passages pour l'état intermédiaire. Excusez-moi, j'ai pas compris. J'ai parlé de quoi?
Vous avez parlé de la tolérance de la
famille. Oui.
Et ce point de controverse, pourquoi les conséquences de l'analyse? Je voulais demander si ce point n'est pas lié à l'expérience qu'on va voir.
Certainement, c'est un point de la doctrine des choses futures, et donc il affecte l'espérance chrétienne. Ceux qui sont prémillénaristes ont une espérance double. Ils attendent le millénium et la nouvelle terre où la justice habitera, et les amillénaristes attendent la nouvelle terre où la justice habitera. Là, ça fait une différence. Et je ne crois pas que la différence soit tellement considérable pour ni l'élance de l'espérance, ni les conséquences pratiques d'aujourd'hui, c'est certain, mais vraiment, je ne vois pas de tandis que je ne puisse pas attendre pour cette raison-là. Peut-être pas d'autres raisons qui vont faire que c'est un tandis. Donc ça me semble bien montrer que cette doctrine n'a même pas pour l'espérance de conséquences si graves. Sur le cas,
les millénaristes parlent de 7 ans de tribulation, pas le millénium.
Les dispensationalistes.
Oui, les dispensationalistes.
Oui.
Est-ce que les amillénaristes parle aussi de cet âme.
C'est une autre question, mais disons, en théorie, il le pourrait être, en fait, il faut vraiment, si jamais. En tout cas, il n'accepte pas, de façon générale, le report de la 78e semaine de Daniel à la fin des temps. C'est les deux années de risque courantes. Et où peut-on trouver le risque, d'ailleurs, c'est-à-dire que les 70 semaines se suivent sans interruption, il n'y a pas de raison de mettre là d'abîme entre le 69e et le 70e.
Monsieur, ce n'est pas, je dis que les Juifs en Talmud étaient arrivés à développer l'union entièrement eux-mêmes, sans posséder les données dans le Nouveau Testament. Ils avaient affirmé bien avant l'Apocalypse que le règne messianique serait blanc. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Alors, en ce qui concerne les idées juives, il est certain qu'il a eu l'idée d'un règne messianique intermédiaire dans le judaïsme. Et pour un millénariste, c'est là l'explication de sa présence au second siècle dans l'Église chrétienne. Les millénaristes ont toujours dénoncé, déjà les gens de l'école d'Alexandrie, la pensée millénariste comme une influence juive, comme le fruit d'une influence juive. Donc il y a été lié du. Une doctrine juive, cela est certain. Quelle a été la largeur de l'adhésion, l'ampleur de l'adhésion à cette doctrine dans le judaïsme? C'est très difficile à dire. Ça, c'est très, très difficile. Et son âge, Schweitzer, donc, explique la naissance de cette doctrine chez les scribes par la difficulté de réconcilier les prophéties de l'Ancien Testament si on les prend littéralement toutes. Si on essaie de les prendre littéralement toutes. Il semble bien que la position de Milan était une position parmi plusieurs, même parmi ceux qui admettaient un règne intermédiaire. C'est dans l'article de Prigent que j'ai trouvé les renseignements les plus précis à cet égard. Les opinions juives varient de cette manière. Certains ont dit qu'il y avait un règne intermédiaire de 40 ans, d'autres de 60 ans, d'autres de 400 ans. C'est ce qu'on trouve dans le livre du 4e Esdras. Qui est du 1er siècle, qui est à peu près contemporain du Nouveau Testament, et c'est aussi la position du plus grand docteur talmudique, le rabbi, celui qu'il appelle Rabbi, mort en 217, lui disait 400 ans, et ça c'est basé essentiellement sur le psaume 90, « Réjouis-nous autant de jours que tu nous as affligés ». Alors il y a eu 400 ans dans l'Égypte, donc 400 ans de règne messianique. Certains 600 ans, 1000 ans, un certain Rabbi Eliezer, qui serait vers 90, et Rabbi Eliezer ben José vers 150, d'autres ont dit encore 2000 ans, et d'autres même 7000 ans. Et d'après le compte rendu, c'est basé sur le commentaire de Strack-Willerbeck sur le Nouveau Testament à partir du Talmud, et c'est dans l'article de Prigent, janvier 73. Lui-même pense qu'il devait y avoir une tradition qui rattachait le chiffre de 1000 ans au paradis, et il considère que dans Apocalypse 20, le chiffre 1000 était comme un symbole théologique qui évoque la vie paradisiaque retrouvée et accessible dès maintenant. Ça, c'est la position, c'est l'interprétation à laquelle Prigent arrive pour ce chapitre.
En ce moment, il y a un paradis.
Oui, le paradis est très bon.